Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mais le sujet, c'est vraiment Al Pacino qui enfonce une porte sur du Joe Cocker, tu vois. C'est vraiment ça le sujet de l'émission.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Bonjour, bonsoir à tous. C'est pas Thomas, c'est Mehdi Maevi. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Nos Ciné, puisqu'aujourd'hui, Nos Fun prend les commandes de Nos Ciné. Je l'avais teasé en fin d'émission la semaine dernière, il fallait bien que ça arrive. Nos Fun fait du hors-piste et s'aventure le temps d'une émission sur le terrain du cinéma. Nos constantes références à nos films favoris trahissaient cruellement notre envie de parler 7e art et notre jalousie vis-à-vis des collègues de Nos Ciné. Et si vous nous suivez depuis un moment, ici ou sur d'autres médias, vous savez que nous avons quelques obsessions. Nico et la science-fiction, Nemo et Hitchcock, Yérim et les films d'horreur. Quant à Raphaël, et je crois qu'il est plus allé dans une salle obscure depuis Gladiator de Ridley Scott, mais en ce qui me concerne, il y a bien une interview de rappeur sur deux qui se termine par la question suivante, alors Scarface ou l'impasse. C'est justement ce dernier film qui va faire l'objet d'une émission aujourd'hui, parce qu'on aime profondément Brian De Palma, que j'ai passé mon adolescence à me demander ce que ferait Carlito à ma place, et surtout parce qu'on a en réalité très envie d'être recruté par un média pour parler de cinéma. On va donc parler aujourd'hui de l'impasse avec Aurélien Chapuis, a.k.a. le Capitaine Nemo.
Salut.
Yérim Sarr,
a.k.a. Yérim Sarr.
Oui, toi tu n'as pas d'a.k.a. toi aussi, a.k.a. Spinter.
Ah ouais, pourquoi pas.
Bah oui, bah c'est ton a.k.a. C'est parti, l'impasse et De Palma dans Nos Fun / Nos Ciné, c'est tout de suite.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Voilà, ça y est, on y est. Je suis content, moi. Je suis content. C'est le moment de parler.
Les jingles sont pas terribles.
Ah bah c'est pas nos decks à produits. C'est pas nos decks à produits. L'impasse donc est un film qui aujourd'hui, on va dire, reconnu comme un des chefs-d'œuvre de De Palma et un film classique des années 90. Ça n'a pas été le cas à sa sortie, où le film a été vu comme quelque chose qui faisait un peu du réchauffé justement des films qui avaient précédemment eu du succès de De Palma, notamment les films autour des histoires de gangsters, type Scarface et les Incorruptibles, qui étaient tous les deux sortis dans les années 80. Incorruptible aussi, hein, c'est fin des années 80,
89,
c'est à la grande période de Kevin Costner. Ouais. Et du coup, ce film-là, posteriori, il a clairement été réhabilité. Peut-être Yérim, toi, sur l'impasse et plus largement, c'est qu'est-ce que ce film t'inspire là? C'est quel souvenir de cinéma pour toi?
Pour le coup, c'est un souvenir de télé, parce que j'étais trop petit peu pour le voir en salle. Après. Du coup, on était trop jeunes pour savoir qu'en fait, il s'est pas pris un bide, mais clairement, c'était pas du tout des bons retours à sa sortie. Ouais. Même critique d'ailleurs.
Oui, même critique, ouais,
c'est
tout
ça,
à fait.
C'est ça le truc. Après, ce que ça m'inspire, c'est qu'en fait, moi, déjà, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai lu le bouquin, les deux bouquins pour le coup, parce qu'en gros, l'impasse, c'est l'adaptation du deuxième tome d'un diptyque écrit par un juge en fait américain qui s'appelle Edwin Torres. Et en gros, le délire, c'est que la première partie, c'est tout ce que tu vois pas dans le film. C'est en gros, c'est la jeunesse de Carlito.
Mais que tu verras.
Et dans un préquel dégueulasse.
Dans un horrible préquel. Je sais plus comment il s'appelle, mais avec un Puff Daddy qui joue dedans.
Et ouais. Et malheureusement, dans la version française, ça s'appelle genre l'impasse 2. Ouais. L'ascension au pouvoir. C'est vraiment un truc.
Et d'ailleurs, ils ont vraiment, je trouve que Carlito jeune, c'est vraiment Benny Blanco en fait. Tu vois, ils ont vraiment fait un acteur qui ressemble à John Leguizamo qui joue Benny Blanco.
Le truc triste, c'est qu'ils ont repris Luis Guzmán pour un autre rôle.
Ah oui, c'est-à-dire
que t'as pas de Changa plus vieux qui joue pas de Changa.
Ah bah lui, il refuse jamais un rôle.
Comme dans le film, pareil.
Exactement.
Et en fait, ça c'était quand tu lis les deux trucs, tu comprends mieux une des forces du film, parce que ça aurait été une erreur, en tout cas ça aurait retiré beaucoup de force au film s'il l'avait fait en deux temps, ou s'il avait gonflé le film entre guillemets en faisant masse de flashbacks pour dire attention, avant Carlito c'était une terreur, attention avant Carlito il faisait six. En fait, le truc, c'est de le prendre, d'adapter le second tome, ça lui permet de faire déjà un truc super intelligent, c'est que c'est en fait, en vrai, c'est un homme qui est cassé, c'est-à-dire qu'il sort d'une très longue peine de prison. et il veut plus de cette vie de gangster, ouais. etc. Et après, t'as la narration, enfin la voix off, c'est-à-dire la narration, la première personne dans le bouquin qui devient une voix off au cinéma. Ouais. Et là, je sais pas si on peut parler de coup de génie ou quoi, parce que c'est en fait c'est très classique, mais c'est le fait de le faire commencer sur son lit de mort.
C'est pas un spoil, hein, parce que c'est la première scène du film.
Ouais, voilà. C'est la première scène du film. Après, bon, le film est sorti en 93-94, ouais, donc je pense que ça va. mais donc, le fait d'avoir un héros qui te parle, en fait, toute la voix off, et du point de vue de son lit de mort, en réalité, c'est pas genre en temps réel et tout. Donc, c'est un héros tragique, parce que c'est la définition du héros de tragédie, c'est un mec qui est condamné de base. Donc, lui, il correspond à cette définition. Après, c'est plus tragédie à Shakespeare que grec, parce que c'est plus des histoires de complot, de paranoïa, de trucs comme ouais. ça. Et après, bah, c'est sublimé par sa réale, donc la réale de De Palma, ouais. où en gros, il y a une analyse à laquelle moi je souscris pas trop, qui est un peu psychologie de comptoir, qui dit qu'en fait, De Palma s'est totalement identifié à Carlito Brigante, parce que De Palma, dans sa vie, était pas au top de sa forme, genre en fait il avait des problèmes de divorce, et puis même dans sa carrière cinématographique, ouais, il revenait de deux échecs ouais, en réalité, ouais, qui étaient en fait deux très bons films, mais reconnus a posteriori.
C'est Le Bûcher des Vanités,
Le Bûcher des Vanités et Outrage, qui est très peu connu, mais qui est vraiment un très bon film avec Michael J. Fox, ouais. qui est dans un rôle très sérieux et
sur
très
le Vietnam,
grave.
Ouais.
C'est le Vietnam, et Sean Penn joue un soldat qui a violé en fait une femme. Et
d'ailleurs Sean Penn avec Brian De Palma
et Sean Penn chez Brian De Palma, c'est il tape pas mal de rôles de petit bâtard, ouais. Et en gros ouais non le truc c'est que la réale de Palma, moi je trouve que on peut après disserter des heures sur ouais il se reconnaît dans le perso parce que c'est un homme qui revient d'un truc ouais. lourd et qui a aussi ce rapport à sa dulcinée qui est très compliqué parce que d'un côté t'as De Palma en fait apparemment il aurait divorcé parce que il arrivait pas à concilier sa vie privée avec sa carrière, donc ce côté pro
ou Carlito, qu'on retrouve dans le film,
Carlito ouais. sa vie professionnelle étant la rue, c'est ça son gros
Exactement.
Problème maintenant. Ça, honnêtement, je pense qu'on peut pas le savoir parce qu'on n'est pas dans la tête de De Palma. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que Carlito se colle, enfin, De Palma colle à Carlito en termes de réal et en termes de positionnement. C'est-à-dire que là où, sur ses autres films, t'as une mise en scène qui est beaucoup plus flamboyante en général.
Complètement.
Vraiment, il y en a certains qui disent que c'est carrément baroque, etc. Là, on est sur un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus mélancolique. Il colle à sa voix off. Et surtout, c'est le personnage qui dirige presque certaines scènes. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les scènes où t'es vraiment du point de vue de Carlito, et qu'en fait, il est tellement expérimenté qu'il crame, qu'il y a un truc qui va pas. Par exemple, dans la première transaction qui part en couille avec son petit neveu dans le billard.
Ouais, le billard.
Tu vois, les déplacements.
Le premier regard et tout.
Tu vois, les déplacements de Carlito Brigante. Ouais. En fait, c'est lui, la caméra le suit au sens premier du terme. Ouais. C'est lui qui oriente vraiment l'action. Après, c'est pareil sur plein de trucs quand il est dans son propre club et qu'il doit échapper à des gens. Quand il est à l'hôpital, qu'il doit visiter son avocat et qu'il doit esquiver le flic.
Exactement.
Et évidemment, sur chef-d'œuvre de la course-poursuite.
J'avais vu un truc là-dessus sur De Palma, parce qu'en fait, il avait toujours cette histoire où il devait compresser son film au maximum, ouais. parce que le studio voulait en faire un énorme film de gangster comme
ouais,
d'habitude. Et la fameuse scène du billard où il y a toute cette explication où tu vois vraiment le.
Qui est longue, hein, qui dure
très très longue. Et justement, il disait genre, comment je vais faire? Parce qu'en gros, il avait presque 12 minutes de scène, je crois. Et il lui disait, les studios lui disaient, on veut que ça dure 6 minutes, tu vois. Et en fait, il a réussi avec un délire très suspense et en fait en faisant monter la pression avec très peu de choses.
Ouais, c'est très paranoïaque.
Et vraiment, tu as le regard total de Carlito et un petit peu de son cousin, mais tu vois que c'est Carlito qui est en train d'analyser tous les petits détails.
Ouais.
Et au final, ça a fait que De Palma, il disait, genre, quand j'ai montré en test, ils ont même pas capté que la scène, elle était hyper longue. Ils ont dit, ok, c'est bon, ça marche, c'est génial. On est totalement dans le personnage. Juste avant, on est là, on sait pas trop où se place Carlito. Là, on a tout de suite compris, sans faire des allers-retours, comme tu as dit, que c'était un boss, que le mec il comprend totalement la rue, il sait tout de suite que ça va être de la merde, et en même temps il veut s'en défaire le plus vite possible, et il se dit dès la première scène, il fait mais qu'est-ce que je fous ici,
mais c'est la preuve,
je suis dans
aussi
la merde, enfin genre je suis en train de me remettre dans la merde alors que c'est exactement ce que je voulais pas faire.
C'est la preuve aussi par rapport à ce que disait Yérim, c'est vrai qu'on n'a pas besoin forcément, quand tu veux raconter une origin story en tout cas, d'alourdir le film avec des flashbacks etc, parce qu'en fait en quelques plans, en quelques scènes, tu comprends qui était Carlito quand il sort de prison et qu'il y a un ancien boss qui lui dit de voir et qui voit Carlito qui se dit bon qu'est-ce que tu vas me demander en fait, ça, t'as passé 5 ans en prison, t'as pas dit mon nom, tu m'as pas balancé, donc en gros là je te dois un truc. Lui lui dit bah non moi je veux, en fait tu comprends du coup que Carlito c'était quelqu'un, tu vois, et que c'était voilà, et c'est, et alors là on va aller sur une théorie encore plus foireuse, mais tu vois c'est le côté Carlito c'est Tony Montana s'il était pas mort, tu vois. Et en fait c'est vrai que Carlito est un personnage super différent de ce qu'était Tony Montana, mais tu dis que voilà, est-ce que si Tony avait trouvé la rédemption, en tout cas ça, tu sens que c'était une terreur peut-être au même titre que Montana, tu sens qu'il a touché dans la drogue, qu'il en a vendu, enfin voilà, c'est...
Puis c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un film qui arrive 10 ans totalement après après Scarface. C'est deux films de commande, c'est-à-dire que c'est pas des films que Brian De Palma a choisi, c'était le producteur qui lui a dit.
Il voulait pas le faire là.
Non, les deux. Même Scarface, il voulait pas.
Exactement. Parce que c'est les deux. Question d'ailleurs que soit Abel Ferrara qu'il fasse. Ah ouais, lui, il était pressenti.
Parce que c'était les moments où ces mecs-là étaient plus dans cet esprit un peu de, un peu baroque, gangster. Abel Ferrara venait de faire Bad Lieutenant, il était dans New York. Enfin, c'était le prince de New York et tout. C'était vraiment le moment, quoi. Alors que De Palma était plus, en plus, il avait marre de faire truc.
Le prince de New York, c'est Eddie Murphy.
Ah pardon, ouais, c'est le roi de New York. Non, c'est vrai, le King of New York avec Christopher Walken. J'ai fait un switch. J'adore Eddie Murphy, c'est pour ça. Mais en gros, c'est vrai qu'il en avait marre de faire des films de gangsters. Il avait, à mon avis, tout dit sur Les Incorruptibles et sur Scarface. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de petits détails où tu vois qu'il se dit genre, bon, Scarface, si je l'avais fait 10 ans après, sur ce script, je l'aurais peut-être pas fait aussi baroque, comme tu disais, avec, tu vois, tout le côté grandiloquent que tu connais de Scarface. Avec, donc il va refaire des fois les mêmes scènes, mais avec un côté un petit peu plus humain et un petit peu plus genre je me regarde dans la glace et putain c'est des conneries les mecs, tu vois, il fait les mêmes scènes de club mais c'est des scènes qui sont beaucoup plus rumba cool, tu vois, alors qu'à l'époque c'était hyper cocaïne, hyper succès et tout ça quoi.
Pas de temps, c'est filmé différemment parce que forcément le héros est presque à l'opposé. Après je trouve que
c'est pas la même période aussi ni le même
alors
lieu,
ouais il y a ça, c'est pas le même endroit etc, mais après il y a un truc, c'est qu'en vrai c'est, mais ça je pense que c'est plus un délire de spectateur, effectivement ça fait plaisir d'y penser comme ça, de dire ouais, et si en fait c'était la version apaisée de Tony Montana, ou la version voilà, s'il était pas mort, qu'il était juste allé en prison et qu'il s'était calmé en prison. Mais après, par contre, sur l'opposition un peu vénère, bah, du coup, que j'avais commencé sur le truc avec Roth, quand je lui ai dit ouais, du coup, est-ce que tu penses quand t'es plus jeune,
quand tu fais référence à une émission à BCDR, ouais, tu fais quoi, ensemble.
T'es plus fougueux, impulsif, donc t'es plus Scarface parce que Tony Montana, le monde est à nous, etc. Ouais. Et quand tu prends un peu d'âge, tu te sens plus proche de Carlito. Mais ça, en fait, en vrai, c'est aussi de la psychologie de comptoir. Moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas les opposer. C'est juste les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que Tony Montana, c'est un mec qui crève parce qu'il est dans l'excès, parce qu'il en fait trop sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qu'il fait est normal. Mais en fait, quand tu es dans un point de vue extérieur, tu fais non, tu cours à ta perte, tu vas dans un mur, etc. Que soit défier des gens plus puissants que lui, tout ce que tu veux, même son comportement au quotidien. Carlito, c'est un mec qui meurt parce que il en fait pas assez volontairement, parce qu'il en a marre en fait. Il y a plein de moments qui sont presque de l'ironie tragique. C'est tous ces moments où en fait normalement dans une tragédie t'as des indices très clairs qui te disent ce héros est condamné. Il est condamné dès le départ. Il peut rien faire. Il va crever. Carlito, c'est lui-même qui se le dit. Il dit voilà, en fait, je dois suivre le code de la rue, code que plus personne ne respecte. Exactement. Au moment où lui revient.
Mais ça va.
Mais ça,
d'ailleurs, Penelope Miller lui dit toi, ton code de l'honneur, il
s'en fout et tout. Exactement. Il dit je vais le faire quand même parce que je sais pas faire autrement.
C'est mon ami, je lui dois un truc.
Et voilà, j'ai une dette, donc j'ai jusqu'au bout. Il y a ça.
Alors qui sait en plus.
Il y a les moments de refus vraiment de participer à l'action. Donc ça se voit dans la mise en scène où en fait t'as des moments où lui c'est pas du tout le protagoniste principal, mais on reste sur lui et lui en fait c'est juste un observateur. Donc il y a tous les moments où son avocat part en couille.
Bah, l'évasion,
en fait,
du bateau, il constate.
Alors voilà, bon, le bateau c'est le paroxysme.
Même avant.
Mais même quand il s'emballe dans des fêtes
dans
vraiment poussées, voilà, il y a ça. Il y a
club,
ce regard de Carlito, tu vois, très blasé, très en retrait. Et surtout il y a le moment où il épargne volontairement Benny Blanco.
Qui est
lui-même en voix off.
Qui est pour le coup peut-être plus Tony Montana que.
Ah, totalement Tony Montana, totalement.
C'est Benny Blanco en fait, Tony Montana.
Et en gros, la voix off de Carlito dit clairement ça va me retomber dessus parce qu'avant je l'aurais tué et j'aurais eu raison. Parce qu'il va revenir, il va me faire chier. Et il a ce truc-là de refus. Et après, c'est pour ça que voilà, pour moi ça se complète très bien parce que c'est vrai qu'on est d'une génération où Scarface ça a été. Sur-cité. Et surtout que nous en plus on est dans le rap, donc c'est.
On l'a presque imposé,
presque fait pourrir le film à base de citations VF dégueulasses. En fait, ça reste un très grand film.
Bien sûr.
C'est aussi une tragédie à sa façon. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a. C'est pour ça que pour moi, c'est les deux facettes d'un même truc. C'est que dans l'impasse, t'as ce truc de point de vue presque apaisé qui dit genre en fait regardez-moi courir à ma perte, je le sais, je suis sur mon lit de mort. Et du coup ça rend le film presque plus positif que Scarface parce que quand Tony Montana crève, je veux dire, il crève les narines pleines de coke en insultant tout le monde.
Ouais. Quand, c'est pas très positif.
Non, mais justement, quand Carlito crève, t'as l'impression qu'il est presque d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il se dit,
genre, il parle même de sa descendance.
J'aurais essayé, ouais, et t'as le côté un peu plus positif sur, ouais, de toute
il
façon,
Carlito,
si Carlito est en route, etc.
C'est à ça que je pense que peut-être le personnage de Carlito ressemble plus à Manny dans Scarface. Un mec qui était un peu plus, tu vois, dans la réflexion un peu plus en arrière et moins dans la paranoïa complètement tarée et dans l'ambition folle. Et c'est comme si Manny s'était fait arrêter avant de se faire flinguer et qu'au final, il ressort 5 ans après, c'est plus un caïd du tout et il essaye de se remettre dedans. Il est moins dans les meufs, mais il est toujours, tu vois. Parce qu'au final, l'histoire d'amour, ça, c'est un truc
c'est qui. C'est vrai quand que même... Manny voulait se marier, il voulait faire les choses.
C'est
bien,
totalement c'est ça.
Vrai.
Et c'est un truc qui est quand même très souvent dans Brian De Palma, c'est que très souvent, c'est des milieux de mecs. Donc, c'est beaucoup sur le côté un peu macho. Là, c'est les Cubains, mais bon, c'est joué par lui, il est italien, ils sont italiens. Enfin, c'est un projet qui est monté par Pacino, qui est aussi italien. Donc, il y a tout ce côté un peu macho, cinéma, vraiment de gangster et tout. Mais les personnages les plus importants et qui font switcher l'histoire, que ce soit dans Scarface ou que ce soit dans tous ces films de gangsters, c'est les femmes, en fait. Et là-dessus, il a vraiment. Enfin, je trouve l'écriture des couples dans les films de gangsters, souvent, ils sont pas toujours exceptionnel chez Scorsese, ça va.
Parfois les femmes n'existent pas en fait, même
chez Scorsese ça va, mais c'est vrai qu'en général c'est un peu compliqué d'avoir un vrai personnage qui est pas juste un faire-valoir ou une histoire de bagarre entre deux personnages.
Mais pour moi c'est la force d'un film comme Impasse, c'est que c'est autant un film de gangster qu'un thriller policier, ouais, que peut-être même une histoire d'amour en fait. Parce que
tu vois, c'est
comme un drame.
Exactement, comme
un drame.
Humain. Et c'est ça que j'aime
c'est
avec ce
story
film.
Avec des flingues.
C'est que t'as 4 genres de cinéma différents qui se croisent et qui se croisent bien sans que ce soit.
En fait, c'est un film de gangster, mais il y a quoi? Il y a 3 grosses scènes de bagarre, enfin de tuerie.
Après, s'il faut revenir sur la course-poursuite de fin, qui pour le coup est vraiment un cas d'école, c'est du chef-d'œuvre. Parce que déjà, si elle était pas si bien, t'aurais pas cette espèce de sentiment de con de spectateur d'y croire à chaque fois, se dire il peut le choper son train.
Ouais, c'est fou ça. D'ailleurs, l'histoire, c'est qu'à la base, ça devait être sur les tours du World Trade, et puis il y avait déjà eu un premier attentat en 92-93 qui avait rendu ça impossible.
Des précurseurs.
C'est vrai.
C'est qu'en plus la scène a été tournée je crois en plus de 8 mois, et donc au début ils ont commencé à tourner l'hiver, et donc toute la partie où il est genre en manteau et tout dans le métro, c'est en plein été, et donc il en pouvait plus le mec,
son long manteau
il en pouvait plus, genre apparemment Ne Palma disait même il y a une fois il m'a dit c'est bon j'arrête, il est resté dans le métro pour rentrer chez lui, genre ça l'avait saoulé, et donc il est revenu après le lendemain, et apparemment c'était vraiment le point que De Palma il voulait qu'il soit absolument super réussi, parce que c'était le cœur de son film en fait. C'était le moment où tu te disais est-ce que le fait qu'il soit super positif, qu'il essaie de s'en sortir, ça va donner quelque chose ou pas, parce qu'il y a quand même tu vois au début on le voit, on sait qu'il s'est fait tirer dessus, mais on sait pas vraiment dans quelles conditions, on sait pas si tu vois, il y a quand même
parfois le film passe et t'oublies la première fois que tu le vois, tu peux zapper la première scène,
tu te dis ça se trouve il s'est juste pris un, tu vois, parce qu'il se passe d'autres choses, à un moment il se fait tirer dessus, enfin il y a d'autres
péripéties. Là pour le coup il y a tout le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que la caméra devient Carlito et vice versa.
Ouais.
Parce que vu qu'en fait il doit esquiver à peu près 6 mecs qui le courent dans 3 décors différents, t'as vraiment ce truc de chat et de souris et de positionnement. Et là, vraiment, De Palma il est au sommet de son art pour moi sur ce truc.
Tout en temps réel et tout.
Parce que voilà, c'est.
C'est
tout,
incroyable.
Tu pourrais, si tu le vois sans vraiment avoir. Sans vraiment faire gaffe, tu vas juste te dire bon, c'est un jeu de chat et de souris. D'abord, ils sont dans un club, puis dans une gare, etc. Non, c'est vraiment un truc chirurgical avec des groupes qui passent, puis ils s'en servent comme obstacle. C'est vraiment tout un bordel.
Puis en plus, le gros truc de Palma, que après, on va dire, qui est le génie de Tarantino, d'un peu sampler des films qu'il a pu voir ou qu'il a pu reprendre, là il se ressent lui-même, ce qui fait la scène de Les Incorruptibles
qui sampler le cuirassé Potemkin,
qui est incroyable, c'est-à-dire que la gare et les escaliers, enfin tu vois là il est passé des escaliers avec le petit landau là qui fait tac tac aux escalators, et tu vois, et genre alors que c'est 5 ans après, et il refait plus ou moins la même scène avec un autre fonctionnement et un autre but, mais c'est ça qui est assez
mais
marrant.
parce que là c'est Al Pacino et c'est plus Andy Garcia.
Oui, mais même tu vois, la scène où genre il rentre où Pacino force la porte et tout, quand il rentre juste dans l'entrebâillement de la porte, tu peux pas ne pas penser à Shining et tu sais à genre Jack Nicholson qui rentre, il fait c'est moi et tout. Et en plus vu qu'il y a une genre de chat à la souris entre eux, on sait pas trop si elle a envie qu'il rentre ou pas au début, etc. Tu sais, en fait c'est ça qui me plaît aussi chez De Palma, c'est qu'il y a un côté un peu
c'est
amateur,
un fan de cinéma,
voilà, ouais, amateur et fan. Et pour le coup il fait beaucoup de sampling, ce qu'on va beaucoup plus ou moins donner à Tarantino après en disant genre oui c'est du génie mais en même temps c'est de la carotte. De Palma il l'a fait quasiment sur toute sa carrière et à mon avis c'est ça qui va aussi
avec Hitchcock beaucoup.
Ouais, ouais. Et même d'autres types de films, mais c'est vrai qu'il va reprendre en fait des, bah des problématiques totales.
Même
pour
le truc
refaire
de
ça.
Première voix off qui arrive et qui dit qui te fait comprendre que le mec est sur le point de crever. Ouais. Même ça, tu vois, c'est. Ça, je sais pas si c'est un hommage, mais enfin, tu vois, c'était Billy Wilder, je crois, qui avait fait un truc un peu avant sur ça.
Non, mais ça se voit que c'est
sur
un mec.
Sur ce principe, pardon.
C'est un mec qui est baisé de cinéma et qui, pour le coup, même sans le savoir, arrête pas de sampler, de remettre, et à mon avis c'est vachement influent sur ce que, à mon avis c'est pour ça aussi que ça résonne chez nous, notre génération, c'est que c'est vachement influent sur le cinéma des années 90, alors que lui il va le faire beaucoup plus tôt, début 80, fin 70, à l'époque où personne le faisait en fait. Tout le monde trouvait ça un peu galvaudé, too much, un peu baroque et tout, et lui il va amener ce côté un peu cinéphile 3.0 et en le rendant un peu série B quoi, genre et on retrouve
comique,
un petit peu ça
quand, justement, Carlitos Way. Pour revenir à ce qu'on disait au tout départ, en fait c'est ça je pense qui avait un peu perdu les gens quand le film est sorti à l'époque, parce que les gens en voyant, bah après c'est à la fois un avantage et un handicap, c'est que quand t'as De Palma, Al Pacino et gangster dans le synopsis,
tu veux,
les mecs voulaient Scarface 2, effectivement c'est pas du tout
c'est
Scarface 2,
Scarface.
C'est très complémentaire, mais tu, voilà, ah, si
surtout,
tu t'attends à ça c'est clair que
c'est vrai qu'on en a parlé, il faut remettre dans le contexte, début 90 c'est Les Affranchis de Scorsese, c'est Le Roi de New York de Abel Ferrara, il y a une esthétique incroyable autour des gangsters qui revient à la mode au début des années 90, et là Pacino et De Palma prennent ça complètement à l'envers pour en faire une sorte de film 70s qui à mon avis était complètement en désaccord avec ce qui se passait au début des années 90 sur ce type de film, et c'est ça à mon avis qui les a desservis. Mais quand tu le remets dans un autre contexte, c'est peut-être un des meilleurs films qui est sorti sur ce niveau quoi.
En fait pour moi c'est pas, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a de gangsters que finalement le lieu ou la profession des mecs, mais tu vois par rapport à ces films de gangsters, dans les films de gangsters justement on voit beaucoup de gangsters, en fait ils traînent entre eux, les affranchis, les parrains, etc. Là en fait la vie, le quotidien de Carito c'est pas ça justement, c'est sortir de ça, c'est gérer un club, donc c'est là il y a un truc
tu
gangster,
vois l'univers de la rue
ouais,
quand
bien
même.
Sûr
tu vois,
c'est
tu
pour
vois,
ça que pour moi c'est pas un film purement gangster, tu vois,
à mon avis je trouve qu'il est peut-être un peu plus réaliste parce que justement on voit pas que les gangsters en costard entre eux en mode mafia qui s'embrouillent et qui starvent, enfin il y a pas Joe Pesci qui va dire comment tu me parlais, c'est... là t'as vraiment un délire où genre t'as l'avocat qui est censé être un second rôle de fou qui devient le rôle pivot parce que c'est lui qui fout la merde dans tout en fait.
L'avocat il fait vraiment le tentateur pendant tout le film,
c'est ça, et puis surtout ça paraît réel, c'est quand tu vois le truc c'est souvent ce qui se passe, tu vois, là il disait, il expliquait le juge qu'il avait eu au moins 8 avocats qui s'étaient fait flinguer devant lui parce qu'il s'était rapproché trop proche de ses clients, et ça c'est une histoire que t'as pas souvent parce que finalement ces mecs là souvent c'est des prête-noms rapides dans les films de Scorsese, on s'y intéresse même pas, c'est pas des personnages principaux. Là les vrais personnages principaux c'est Carlito et son avocat
et David Kleinfeld qu'on voit dès le début et jusqu'à la fin, hein, il est vraiment
et qui est quasiment aussi important, il a autant de scènes, on vit comme lui, en plus c'est ça qui est intéressant, ce Carlito tu sais tout de suite comment il se positionne alors que Sean Penn et surtout en fait t'as l'impression qu'il évolue alors qu'il est comme ça depuis le début, mais en fait tu vois son évolution dans les yeux de Carlito. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Brian De Palma arrive même à nous mettre dans des scènes où Carlito est pas là, à nous le présenter comme si c'était la vision que Carlito il en avait en fait. Donc tu le découvres en même temps Carlito, le fait qu'il va se passer, le fait que finalement c'est lui qui va tout dégoupiller, tu l'apprends en même temps, mais quelque part tu le sais parce que dans il y a plein de signes, enfin c'est vraiment bien millimétré au niveau de la mise en scène et du scénario, de l'écriture, on sent que il y a une vraie alchimie. Après tout a été créé autour de Al Pacino, mais je trouve que les personnages secondaires sont presque aussi importants.
De toute façon la distrib
elle est folle.
Justement je voulais qu'on parle un peu et qu'on finisse peut-être là-dessus, parce que sur les comédiens, parce que on voit aussi Aragorn, hein. Il y a Viggo Mortensen
qui joue une super scène.
En plus, lui c'est vraiment le perso qui vient enfoncer le dernier clou.
Exactement.
Ce dernier pauvre mec, tu peux même pas te fier à ça, quoi.
Donc exactement.
La première chose qu'il dit quand il rentre dans la salle, il fait lui, il c'est un stand-up guy.
Exactement.
Et en plus, il est en fauteuil. Tu sais, comment c'est écrit l'histoire, elle est folle et tu peux même pas lui en vouloir en fait tellement.
Ouais, le mec est à bout. Le mec est à bout.
Parce que quand le mec il lui dit ouais, je peux même plus pisser tout seul, je peux pas. C'est juste triste.
Exactement. Tu dis juste ouais, ok.
Donc t'as Viggo Mortensen, t'as John Leguizamo donc qui joue Benny Mango, qui est un super comédien, bien sûr Sean Penn dans le rôle de l'avocat et Al Pacino. Et c'est vrai que
il y a pas de Changa.
Et Louis Guzman, bien sûr. Et Penelope Miller qui est pas l'actrice la plus passionnante du monde, on va pas se mentir, mais qui fait
du job,
ça marche bien.
Ça fonctionne.
Et surtout moi, ce qui est cool justement, c'est le côté contraste complet entre Carlito et son personnage. T'as l'impression qu'ils ont rien à foutre ensemble. Et justement, c'est ce qui fait qu'elle est peut-être que leur relation est inaccessible en fait.
Ça c'est aussi pareil aussi. Je trouve il y a un jeu de faux semblants avec eux où il la retrouve 5 ans après. Elle lui dit je suis danseuse, j'ai fait des trucs à Las Vegas et tout. Et après là aussi il va découvrir.
Il voit qu'elle est strippeuse en fait.
Et au fur et à mesure, tu vois, il découvre. Et comme lui en fait, tu te dis mais qu'est-ce que je fous, je suis en décalage dans ce monde en fait. Même les gens,
je pense lui, c'est plus proche de moi. C'est un anachronisme, c'est ça qui est marrant. C'est que en fait il y a aucun personnage qui est comme lui et qui est sur sa vision des choses. Même elle en vrai, c'est juste après quand il se rabiboche, ils se remettent sur la même longueur d'onde, mais au début pas du tout. Lui c'est une sorte de mec surgi du passé qui comprend plus du tout le monde qui l'entoure, qui est un peu largué.
Il dit d'ailleurs au bout de 5 ans, on veut juste voir un visage qui est familier en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il est dans un nouveau monde et voilà, enfin un monde qu'il comprend plus. Mais justement sur les acteurs, il y a quand même deux acteurs qui dans ce film-là qui sont complètement méconnaissables si on compare avec d'autres films qu'ils ont fait chez De Palma, que ce soit Outrage pour Sean Penn ou Scarface pour Pacino. Donc c'est Pacino et Sean Penn et Pacino alors, je dis pas que c'est ça la marque des grands comédiens parce qu'il y a différentes manières de bien jouer, mais c'est vrai que avec des mecs comme alors ça va être un cliché de dire ça mais Pacino, De Niro, enfin tu vois, non mais Jack Nicholson, tu vois, c'est toujours les quatre, non mais Dustin Hoffman, c'est les quatre acteurs qu'on va, enfin ce type d'acteur là qu'on va citer, ou Marlon Brando, c'est cette manière, tu sais, d'être vraiment d'être très très différent, c'est-à-dire que c'est physiquement Tony Montana,
Christian Bale.
Christian Bale aujourd'hui, Tom Hardy aussi un petit peu, mais tu vois, Tony Montana ne ressemble pas physiquement à Carlito Brigante, qui ressemble pas à Michael Corleone en fait, qui ressemble pas à Serpico, et pourtant c'est le même acteur et il y a cette même capacité à convaincre devant l'écran. Et peut-être vous sur la prestation d'Al Pacino qui est beaucoup moins exubérante que celle dans Scarface pour le coup, mais qui glisse quoi.
Alors je crois, si je dis pas de conneries, qu'il s'est immergé dans Harlem en fait pour avoir le look définitif du perso.
J'avais lu une histoire trop bizarre là-dessus, parce qu'il disait au début je voulais un catogan.
Ouais, c'est il voulait queue de cheval.
Il voulait comme Raph, il disait genre ouais, je voulais queue de cheval et tout. Et au final, il est arrivé dans Instagram, mais il a fait genre ah ouais, non, merde, ça va pas.
C'est tout ça. Ah ouais, ça aurait été chelou.
Et c'est là qu'il a fait son petit book et tout, chelou.
Donc, il y a ça, il y a vraiment la vraie préparation d'acteur, l'immersion dans le milieu du personnage, etc.
Ça
après, il y a un truc, c'est que il faut savoir qu'en fait, c'est tellement. Moi après je saurais pas, tu vois, dire il joue mieux dans tel film ou il est mieux dans tel rôle si les films sont bons à chaque fois, tu vois. Après je sais que je sais pas si c'est une question de direction d'acteur de la part de De Palma, mais en gros il y avait je sais plus qui expliquait qu'en gros pour lui sa meilleure perf c'était plus Scarface. Et donc moi ça m'avait un peu étonné parce que je m'étais dit ouais, tu trouves pas ça peut-être un peu caricatural avec le temps ou des trucs comme ça. Il disait non, mais c'est pas ça le critère, c'est qu'en fait dans Scarface il y a aucun moment où je vois Al Pacino, aucun.
Mais complètement,
je vois que Tony Montana tout le temps, tout le temps. Donc après le truc c'est que le perso de Carlito est peut-être plus proche de ce qu'était Al Pacino, parce que oui c'est pas un fou furieux, etc. J'aurais du mal à, tu vois, à partir là-dedans. Par contre pour Sean Penn, qui lui est pas forcément aussi habitué des transformations radicales.
Physique,
là vraiment Sean Penn il livre un truc qui est, enfin voilà, David Kleinfeld c'est une dinguerie, je crois. En plus
si on veut parler capillaire, c'est pareil encore, c'est lui qui a demandé à se faire cette coupe
là, côté Samuel Jackson avant l'heure, c'est genre, moi je vois plus mon perso comme ça et tout,
avec des cheveux chelous, je suis Larry David
et je suis à peu près sûr qu'il y a un GTA qui le place.
Je sais pas si c'est le Vice City ou le San Andreas, enfin moi je suis pas un
connaisseur,
c'est pas San Andreas, en tout cas ça doit être Vice City,
mais effectivement c'est le même personnage, c'est un avocat et c'est le même costume, la même coupe de cheveux. Donc, ouais,
parce que vu que Vice City, c'est, bah, en plus, c'est Tony Montana, clairement, que Tracker. Donc, ouais, ils ont dû s'amuser.
Ils ont recoupé, ils ont combiné.
On arrive au bout de l'émission, messieurs, vous avez été brillants. Ah oui, on pourra en parler pendant longtemps, mais
c'est ça le problème.
On attend que Joël, hein, notre producteur, nous donne une émission cinéma. On attend ça très fort. J'aimerais quand même, en lien ou pas avec l'impasse, avec De Palma, avec Pacino, avec tout ce qu'on vient de dire, un coup de cœur. Voilà, ça peut être un film récent, ça peut être. On va rester sur le cinéma pour le coup. On a l'occasion d'en parler aujourd'hui, donc profitons-en. Nemo, peut-être de Palma ou autre chose.
Ouais, De Palma, bah moi, comme je disais, bon, l'émission, j'aime beaucoup en fait. Son côté sampleur d'Hitchcock. Bon, après il y en a qui l'ont appelé le pilleur parce que c'est vrai qu'il a repris à peu près, non mais c'est vrai, ouais. En fait moi ce que j'aime bien c'est qu'il a des vraies obsessions et il se met carrément à faire des films qui s'appellent Obsession où il prend en fait des sujets réels d'Hitchcock que même lui il a traité des fois 5 fois dans ses films et il les remet un peu à sa sauce personnelle, mais tu vois vraiment le sampling. Et pour ça, il y a 3 films en fait qui se suivent quasiment, qui sont Obsession, Blowout avec
Travolta
ouais. Et puis Dress to Kill, donc Pulsion qui est juste après, qui sont un triptyque parfait pour rentrer dans le Hitchcock modernisé en fait. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que je trouve
limite, tu peux mettre son Mission Impossible dedans en vrai.
Un petit peu, ouais, mais petit peu.
C'est vrai que t'as le côté film de commande qui
un
se,
côté
qui
un
se
peu
plaque,
plus action mais... et tout, et qui ressemble justement plus au film de commande d'Hitchcock, alors que ces films tu vois réels, ce qu'il a inventé en fait, le psychose, les oiseaux, la flip, le suspense, le côté sueur froide avec des faux semblants et tout ça, on sent qu'en fait De Palma c'est son cinéma, parce que même dans Phantom of Paradise il va ressortir ce genre de truc. Donc moi vraiment ces 3 films là au début j'étais vraiment, je me dis c'est des copies, c'est chiant, je vois trop en fait Hitchcock derrière tout ça, et au fur et à mesure le fait qu'il ait rajouté des petits effets un peu série B, de l'érotisme en fait, il y a plein de gens à poil, il y a plein de trucs un peu sexy mais chelou dans sa façon de traiter le truc, et ça j'aime bien. Il y a aussi Body Double qui est un peu dans le même esprit où il est dans des faux semblants comme ça, toujours à la chose trappe, et en fait ce qui est bien c'est qu'à chaque fois tu redécouvres la façon dont le personnage principal comme toi découvre l'histoire au fur et à mesure. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais revu que chez De Palma et chez Hitchcock.
Il y a le film Carrie aussi, hein, qui est extraordinaire.
Ouais, après, c'est plus film d'horreur et tout ça. Donc, moi, j'étais un peu moins là-dedans. Mais en termes de suspense vraiment et tout, je pense que c'est début 80, les 4 films-là. C'est incroyable le traitement qu'ils peuvent avoir.
Yérim.
Ouais, bah alors, pour une fois, j'avais fait mes devoirs. Donc, ouais, premier coup de cœur, Sucez-moi. Alors, c'est un son d'Al Capote qui reprend en sample. That's the way I like it de KCS2 and the Sunshine Band, qui est donc le son qui passe dans le club. Je sais plus dans quelle scène, mais ça m'avait marqué
tout à fait
quand j'avais reconnu le sample. Donc voilà, je précise que c'est Sucez-moi première version.
Oui, c'est vrai. Parce que c'est un morceau
après,
qui était remixé,
un truc de trap un peu relou.
D'ailleurs, juste pour une anecdote très rapide, le nom du club dans Carlitos Way, c'est le nom
gros clin d'œil
du
stand,
du stand de bouffe de Scarface.
Il est ma faute polo, elle sort à la merde.
Et non, après, en plus sérieux, honnêtement, moi je dirais outrage, parce que j'ai l'impression que soit il est oublié, soit enfin, en tout cas personne n'en parle
jamais.
On n'en
parle pas, c'est vrai. C'est vrai. Ça s'appelle Casualties of War, je crois, américain, je crois.
Et en gros, c'est vraiment une très bonne perf de Sean Penn, encore une fois. Et c'est l'occasion de voir Michael J. Fox vraiment qui
autre
fait
chose
face
qu'en Marty McFly,
déjà, et qui arrive à tenir tête à Sean Penn dans pas mal de grosses scènes, donc c'est assez cool, sur un sujet assez grave. Et après, t'as. Bah ouais, en fait, après, t'as Carrie, dont t'as parlé, dans un registre qui a aucun rapport et qui, pour moi, est dans les, allez, on va dire, minimum top 5, voire top 3 des adaptations Stephen King. C'est-à-dire qu'en fait, il a.
Après, il y a beaucoup de ratés dans les adaptations Stephen King.
Ouais, c'est vrai aussi.
C'est très souvent vu.
Mais disons qu'en fait, il a pris les libertés nécessaires pour en faire, pour le coup, un vrai classique. Et voilà, ouais, si on reste sur De Palma, moi c'était.
En parlant de ça, moi je sais pas ce que t'en penses, mais il y a pas longtemps j'ai revu Misery avec Katie Bates et James Caan, et j'adore ce film en fait.
Ah, mais enfin, génial!
J'adore Katie Bates, c'est fantastique dedans. C'est une super adaptation d'un stock de
Stephen King. Non, c'est ça. Non, franchement. Mais après, voilà, Carrie, faut préciser, ça repose aussi sur la performance
de Sissy Spacek.
De Sissy Spacek, l'actrice principale. Et voilà. Et sinon, regardez Gomorrah, arrêtez de regarder Stranger Things, respectez-vous. Voilà.
Et moi rapidement, vous avez parlé en fait de tous les films de Palma, voilà, que j'aurais pu citer.
On a tout dit.
Non, mais c'est pas grave. Non, mais moi justement, si on revient sur moi, ce que j'aime chez De Palma, en fait, c'est si on veut, voilà, pour pas trop débousser parfois nos auditeurs, c'est Il y a un truc chez De Palma, c'est que parfois il y a un peu la technique pour la technique, tu vois, comme avec certains rappeurs.
C'est
et c'est vrai que parfois ça peut être chiant. Je pense par exemple, tu vois, le film Femme Fatale avec Banderas.
Ouais.
Qui est... En plus, c'était son retour.
C'était vraiment ouais. pas c'était un bon raté, film. Ouais. Mais tu vois, la scène d'intro, qui est encore un plan séquence, il refait le truc de Snake Eyes.
Ouais.
On voit Bertrand Tavernier d'ailleurs, c'est au Festival de Cannes. Quand même, tu vois, tu te dis, bon, c'est déjà la fin de carrière un peu pour De Palma. Et techniquement, ça reste impressionnant, fort. Tu vois. Ouais. Et alors, dans ce truc-là, il y a bien sûr le plan séquence de 15 minutes dans Snake Eyes en ouverture, qui est un film qui est vachement imparfait, mais que j'aime bien, que je regarde toujours avec beaucoup de plaisir.
C'est un bon petit film.
Exactement.
Tu sens qu'il y a toujours les bases qui sont là.
C'est avant qu'il parte complètement en cacahuète.
Très belle chute.
Nicolas Cage n'est pas parti en cacahuète, c'est juste qu'il fait tout et voilà, c'est au contraire. Voilà,
exactement, exactement. Mais du coup, dedans, il est super bon. Il y a Carla Gugino aussi, que j'aime beaucoup.
Ouais.
Et voilà, et vraiment, le plan séquence de début est hypnotisant, quoi. Et surtout quand tu réalises au bout de 15 minutes qu'il y avait un plan séquence, tu dis putain, il faut que je le revoie, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu la grande force de Palma, cette maîtrise technique qui, à mon avis, parfois peut rendre même les scènes les plus anodines en moment de cinéma à coude. Moi, je me souviens que dans Mission Impossible, il y a une scène au restaurant toute simple entre Tom Cruise et je ne sais plus qui. En fait, sa manière de filmer fait que ça devient un truc excitant, en fait. Et c'est toujours, c'est la force de Palma. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Yérim, d'avoir été là. Merci, Nemo, d'avoir parlé de l'impasse de si belle manière. Merci, Jules, à la technique. La semaine prochaine, on se retrouve, alors ce ne sera pas vous autour de la table, mais c'est quelques-uns des auditeurs qui nous ont envoyé des messages qui vont faire les No Fun Awards et qui vont élire l'homme de l'année rap 2017. On se retrouve la semaine prochaine.